Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Capi Service des Séjours. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Nous allons à présent parler du stress psychologique dû à la dégradation sécuritaire dans la partie est du pays. Comment soigner le stress psychologique? On en parle avec le professeur Joachim Mukau-Ebuel. Il est psychanalyste. Professeur Mukau-Ebuel, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati.
C'est Jody Kachama, il n'est pas seul. Nous avons également le professeur Abraham Mifundu qui est neuropsychiatre. Professeur, bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On se retrouve dans les minutes qui suivent. Des questions et préoccupations concernant le stress psychologique. Appelez-nous pour participer au 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Debs Vita assure la mise en onde. Tati Mapoukou est à la coordination et il assure également la réalisation de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Bienvenue dans cette émission qui à présent on va parler du stress psychologique dû à la situation, la dégradation de la situation sécuritaire, comment ça se soigne. Vous savez, la guerre qui a éclaté autour de la ville dans la ville de Goma dernièrement a été une expérience traumatisante pour de nombreux habitants de cette ville et pas seulement de la ville de Goma, mais de tous les citoyens congolais. Bien que les armes s'y sont tues et que certains tentent de reprendre leur quotidien, la peur et l'anxiété restent visibles chez bon nombre de compatriotes. Les rumeurs qui circulent sur la situation sécuritaire dans la région alimentent également la psychose dans les chefs de la population locale. Aujourd'hui, on parle des Bukavu, etc., de la province du Sud Kivu. Alors malheureusement, beaucoup de gens pensent que les séquelles de la guerre ne sont que physiques et ignorent les conséquences sur le plan psychologique. Alors comment traiter et soigner le stress psychologique dû à la dégradation de la situation sécuritaire? On parle parfois de psychose, on parle de des incertitudes, etc. C'est presque tous les citoyens congolais qui vivent dans ce genre de stress. Alors comment ça se soigne? Comment identifier cela? On en parle avec nos invités. Je commence avec le professeur Joachim Mukau-Ebuel. Il est psychanalyste. Professeur, ravi de vous avoir encore une fois aujourd'hui dans cette émission. Alors la première question est de savoir, qu'est-ce qu'on entend par stress psychologique?
Merci monsieur Marcel pour la question et je vous remercie pour avoir pensé à cette thématique qui est très très importante et qui vient à propos, alors que en fait, des sœurs qui sont à moi vivent des situations difficiles. Lorsque nous parlons de psychologie.
Professeur, on vous capte pas bien. On vous capte pas très bien. Est-ce que vous avez mis les écouteurs ou Allô, professeur. Allô. Oui. On vous capte pas très bien. Oui. Est-ce que vous avez activé les haut-parleurs ou vous avez mis les écouteurs?
Oui, je dis ceci.
Ok.
Le stress psychologique lié au conflit à l'Est a beaucoup de conséquences, hein, beaucoup de conséquences qui sont profondes et durables sur les individus. Et ce stress-là psychologique peut, n'est-ce pas, entamer la vie communautaire, la vie de la société, et peut même avoir un impact sur les individus, et l'impact peut être psychologique, comme vous l'aviez bien dit, qui peut inclure en tout cas provoquer un stress qu'on appelle le stress post-traumatique, qui peut aussi provoquer, n'est-ce pas, des dépressions graves et des troubles anxieux, des comportements suicidaires. Donc ça, c'est un peu un stress traumatique qui vient généralement à la suite des événements traumatiques ou à la suite, n'est-ce pas, de certaines catastrophes. Ça, c'est un peu sur la base de la définition de ce qu'on peut appeler stress psychologique.
D'accord. Docteur Abraham Mifundu, est-ce que vous avez un complément par rapport à la définition de stress psychologique?
Ben, c'est en fait, ce sont des conséquences qui surviennent souvent chez des personnes ou un groupe de personnes qui ont vécu des événements qui ont apparu brutalement, de manière imprévisible, et qui les ont exposés généralement à la mort. Dans le cas de la guerre, par exemple, ce qui s'est passé à Goma, eh bien, ces événements-là, c'est par exemple tout ce que ceux qui vivent là-bas, ou même ceux qui ont de parents là-bas qui ont entendu parler, qui ont vu, ceux qui vivent là-bas, c'est tout ce qu'ils ont vu. Par exemple, ils ont vu des morts, je ne sais, dans les rues. Ils ont vu, par exemple, leurs parents perdre un membre, la tête. Ils ont vu un membre. Ils ont entendu toute cette détonation des armes lourdes. Ils ont, par exemple, vu partir leurs parents sans qu'ils ne reviennent. Et bien, tous ces événements-là, c'est ce qu'on appelle les situations traumatiques qui peuvent entraîner finalement des conséquences qui peuvent soit concerner eux-mêmes et qui peuvent concerner leur entourage et qui peuvent être parfois brutales, qui peuvent survenir au moment, juste au moment de l'événement. C'est ce qu'on appelle généralement de réaction émotionnelle, ou parfois ces conséquences-là peuvent venir survenir 3-4 semaines, voire même un mois. C'est ce qu'on appelle l'état de stress aigu, on en parlera. Ou parfois ça peut même venir un peu plus loin, après 6 mois, et c'est ce qu'on appelle les troubles du stress post-traumatique. Et même parfois des années, la personne peut commencer à consommer des substances psychoactives qu'on appelle des drogues, ou même devenir déprimé, ou parfois tenter de se suicider, ou parfois même devenir psychotique, un véritable, entre guillemets, fou, quoi, commencer à parler beaucoup, à avoir des hallucinations, à entendre des voix de personnes qui n'existent pas. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à cette étape-là.
D'accord. Alors, le stress psychologique, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qu'on appelle aussi traumatisme, ou bien c'est différent d'un traumatisme?
En fait, le traumatisme, ce sont ces conséquences-là qui sont liées à l'événement difficilement vécu et qui a dû même provoquer la mort, qui peuvent se manifester, par exemple, sous forme de... Ce qui peuvent être immédiates, hein, ces conséquences-là peuvent être immédiates au moment de l'action. Et la personne peut être sidérée, elle ne parle plus, elle est là bloquée, ou même parfois s'agiter, et quelques temps après, il peut être irritable. Ou parfois, ça peut venir beaucoup de temps après, 6 mois peut-être après, et il peut présenter par exemple de mauvais rêves, de cauchemars, des répétitions. Quand il revoit encore les circonstances qui lui rappellent l'événement, c'est comme si l'événement était encore là. Il peut avoir parfois des troubles de sommeil, il ne mange plus et il n'a plus besoin d'avoir des rapports sexuels avec son mari, ou parfois il peut même éviter de se retrouver dans des endroits qui rappellent l'événement, quoi. Donc il y a c'est ça le traumatisme. Donc il y a l'événement qui est la situation traumatique qui est liée à la guerre et les conséquences sur la personne et sur et ou sur l'entourage, c'est celui-là qu'on appelle le traumatisme.
Bien, professeur Joachim Moukaoué et Boel, généralement comment se manifeste le stress psychologique?
Le stress psychologique, évidemment, c'est comme vient de le dire le prof Abraham, hein. Vous savez, le stress psychologique peut se manifester sous forme du stress post-traumatique, c'est-à-dire que lorsqu'on dit post-traumatique, après que l'individu ait vécu la situation, ou bien que l'individu ait été victime ou témoin des événements, je suis en contact avec certaines personnes qui sont à Goma. Il y a des personnes qui ont été témoins, ils ont vu leurs amis s'écrouler, ils ont vu leurs camarades, il y en a même qui ont vu leurs femmes s'écrouler. Donc ils ont été témoins de tout ce qui se passe, et le fait d'être témoin de tout ce qui se passe et ou bien de s'échapper, n'est-ce pas, au bal, donc ça reste en soi. Ça reste en soi, ça peut revenir de temps en temps sous forme de cauchemar, ça revient. Donc, alors, quand ça revient comme ça, ça peut revenir de manière brutale, hein, donc, ou bien alors l'individu peut éviter qu'on puisse parler encore de la grève et de la guerre. Et lorsque on est en train de parler de la guerre, l'individu revient encore cette situation-là, n'est-ce pas, en lui. Et donc voilà, mais ça peut non seulement se manifester comme le stress post-traumatique, mais ça peut aussi manifester avec la symptomatologie de la dépression. L'individu peut être déprimé. Déprimé, l'individu qui parlait ne parlait plus, l'individu devient pensif, n'est-ce pas, et aussi ou bien manifeste des comportements anxieux, et l'individu a peur que ces événements puissent encore se reproduire. Donc vraiment ça embête beaucoup de personnes après avoir vécu de tels événements. Mais on constate aussi cela peut se manifester au niveau même de relations. Vous savez, les troubles psychologiques, les événements traumatisants comme ceux-là peuvent aussi entamer les relations sociales. Vous savez que dans une certaine mesure, la perte des proches, la destruction, n'est-ce pas, de la communauté et les sentiments de trahison ou de rejet peuvent altérer certaines capacités des individus à maintenir des relations. Un individu qui vivait très bien avec sa femme et remarquer que la femme est décédée, et remarquer que le mari est décédé, et que l'enfant qui était avec lui dans la même maison est décédé. Donc ça entame vraiment la dimension relationnelle. Et ça peut aussi se manifester sur le plan de santé physique et mentale, même à long terme. À long terme, où on va voir que le stress, comme l'a dit le professeur Abraham, et puis la peur peuvent affaiblir le système immunitaire. Peut même aussi entraîner certaines maladies chroniques, et puis augmenter la vulnérabilité de troubles graves. Donc, ça peut entamer, ça peut non seulement psychologique, mais aussi avoir des répercussions même sur le plan de la santé physique même de la personne. Oui. Mais plus tard, comme je le disais, ça peut aussi avoir un impact sur les enfants. Il y a la question qu'on peut se poser, mais pourquoi y a-t-il des enfants qui veulent bien s'enrôler dans l'armée, mais qui veulent bien s'enrôler, qui veulent bien, n'est-ce pas, qui font partie, n'est-ce pas, de groupes armés. Vous voyez, les enfants exposés au conflit à faits psychologiques, hein, beaucoup d'effets psychologiques et importants qui peuvent affecter le développement même de leurs capacités. Mmh. Certains enfants, on voit bien les enfants qui vivent en milieu traumatisant comme celui-là, et sur le plan scolaire, ça pose beaucoup de problèmes. Même sur le plan de la projection de la vie, ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que leur trajectoire de la vie a été perturbée. Donc, le stress psychologique lié à la guerre, ça perturbe aussi, n'est-ce pas, de devenir même des enfants. Voilà un peu tout ce que je peux dire sur l'impact sur les manifestations de traumatisme psychologique.
Bien. Comment soigner les stress psychologiques liés à la dégradation de la situation sécuritaire? Le sujet vous intéresse? Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Par exemple, aujourd'hui, il y a des combats dans les Sud Kivu. Certaines personnes qui sont à Bukavu sont sous la psychose avec les réseaux sociaux. Tout ce qu'on raconte, les gens racontent sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus la paix. Certains quittent même la ville, d'autres se dirigent vers le Burundi, etc. Docteur Abraham Mifundu, comment donc on peut dire que le stress est permanent? On a appris même qu'il y a des femmes enceintes qui ont accouché après avoir entendu les tirs nourris pendant toute la journée. Ils ont mis au monde ils ont mis au monde des prématurés. Comment pouvez-vous qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Ben en fait il y a plusieurs situations. Et chaque personne, c'est un cas. Il faudrait prendre en considération les différences individuelles. Et il faut aussi prendre compte de tout ce qu'il a vécu comme situation traumatisante. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au moment où le traumatisme est en train de se dérouler, et quelques temps après, et si les personnes qui peuvent intervenir sont là, généralement, c'est un debriefing qu'on fait. On leur laisse parler, ils parlent de ce qu'ils ont vécu, de comment ils ont vécu, comment ils l'ont senti et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme aide. En fait, c'est les laisser s'exprimer librement et généralement, ça ne devait pas durer très très longtemps. Et pour ceux qui sont pris en charge beaucoup de temps après, par exemple dans le 4 semaines, c'est question de rechercher, donc le dépistage, de ce qui peut provoquer tous les signes que nous avons évoqués, qui ne dorment plus, qui ont de l'insomnie, qui ne savent pas plus bien manger, c'est qui revivent encore ces situations, et ou ceux qui sont déprimés. Eh bien, ceux-là, on les évalue, il y a des outils bien standardisés, il y a des protocoles bien faits qui sont validés. Et après, cela peut nécessiter une prise en charge individuelle en fonction de ce qu'on trouve. Mais généralement, des entretiens psychologiques par des personnes très empathiques qui les écoutent assez attentivement, qui les accompagnent parfois. L'évaluation peut montrer de signes plus graves qui peuvent nécessiter de véritables prises en charge élaborées psychothérapeutiques par des psychologues bien formés. Et parfois, comme on l'a dit, ces personnes peuvent présenter de véritables troubles de santé mentale comme la dépression, qui peut nécessiter de médicaments qui sont généralement prescrits par des personnes, des professionnels de santé qui sont préparés pour cela. Et c'est seulement, il y a quelques cas qui ne sont pas très, très nombreux, qui peuvent être pris en charge par des spécialistes, qui peuvent donner des médicaments un peu lourds qu'on appelle les psychotropes, par exemple ce qu'on appelle les antipsychotiques, comme par exemple ceux qui font de véritables entre guillemets, folie. Alors, il y a un cas particulier des enfants. Alors, les enfants, généralement, ils sont suivis dans des ateliers où on peut leur offrir des jeux. Et ces jeux-là, au cours de ces jeux, ils peuvent... parce que généralement, les enfants ne verbalisent pas leur souffrance.
Oui.
Alors, les intervenants doivent utiliser des méthodes assez spécifiques pour les enfants, notamment leur faire dessiner, et à partir des dessins, on peut retrouver leurs éléments de souffrance. Et ces dessins-là peuvent leur permettre aussi de guérir. Et les jeux, on organise beaucoup de jeux pour ces enfants. Et voilà. Et aussi, ça peut aller jusqu'à de procédés judiciaires, notamment la réparation. Hein, la réparation, parce que généralement, quelqu'un qui a été victime, par exemple, de viol par un voisin à l'occasion de cette guerre-là, qui en a profité, qu'on le connaît, et qu'il a été, par exemple, arrêté, eh bien, la réparation peut aussi bien aider. Et c'est toute une vie, pratiquement, qui est bouleversée pour les victimes, qui ne savent pas parfois produire, et parfois aussi, bien que cette manière indirecte, un appui économique sous forme de activités d'autonomisation peut participer aussi. Mais aussi, les contextes socioculturels ne doivent pas être oubliés. Certains rites socioculturels peuvent être mobilisés pour aider ce genre de personnes. Donc, en fait, en bref, c'est au cas par cas qu'on intervient, et en fonction du moment de l'intervention, c'est immédiatement, c'est le debriefing, ou un peu plus tard, là, il y a des entretiens, ce qu'on appelle en jargon spécialisé de psychothérapie qui peuvent être organisés, et on peut aller jusqu'au médicament, Et il ne faudrait pas qu'on limite la prise en charge aux victimes simples, mais on doit aussi aller tenir compte de toute la communauté, parce que, comme a dit le professeur Moukaro, c'est toutes ces relations-là qui ont été bouleversées, sont ces maris-là qui doivent vivre avec leur mari, avec les épouses qui ont été victimes des viols, et donc on doit tenir compte aussi de cet aspect communautaire. Donc la prise en charge doit être étendue jusqu'à la communauté.
Bien, comment soigner le stress psychologique dû à la dégradation de la situation sécuritaire? On en parle aujourd'hui dans cette émission. Des questions et préoccupations? Le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-99-41. Okapi. Bien, nous parlons du stress psychologique. Professeur Joachim Moukaou-Ebouel, on a suivi tout à l'heure que dans le processus des guérisons, il y a des entretiens psychologiques. Alors, comment doivent se faire ces entretiens? Quels sont les genres de questions à poser à la personne? Et comment ces entretiens peuvent amener la personne à se sentir soulagée?
Oui, vous savez que dans les contextes de l'accompagnement des personnes qui ont été victimes, n'est-ce pas, du trauma psychique lié à la guerre, les entretiens sont tellement importants à travers le debriefing. On devra bien recevoir les gens en individuel d'abord, Et il y a des individus qui peuvent eux-mêmes exprimer la demande une fois que la demande est exprimée, on reçoit la personne qui va essayer de raconter un peu comment ça s'est passé. Et puis, on verra un peu au travers de ce que la personne dit et quelles sont les préoccupations que la personne ressent, ce qui est lié au traumatisme. Et on verra un peu comment le vécu quotidien de la personne est-il perturbé. Et puis, à ce moment-là, on verra comment même mettre sur pied une prise en charge. Ce qui est vrai ici est que dans le domaine de la prise en charge de victimes, ici, il y a plusieurs approches. Hein. je peux penser à une approche cognitivo-comportementale, parce que nous savons que parmi ces personnes, il y en a dont les pensées ont été perturbées, et nous savons bien que les comportements sont généralement fonction des pensées, des croyances. La personne peut être affectée parce que ses pensées sont tellement perturbées, la croyance de la vie est tellement perturbée, donc on peut se servir d'une approche cognitivo-comportementale pour essayer de pouvoir remettre la personne, permettre à la personne de reprendre sa vie normalement. Mais ça peut aussi être dans le même contexte, on peut se servir de l'approche systémique. Pourquoi? Parce que l'individu vit dans une société, il se pourrait que le système familial a été perturbé. Et j'ai vu l'image d'un enfant qui est en train de pleurer alors que sa mère est décédée. J'ai aussi appris dans certains contextes où l'enfant est décédé, mais d'autres enfants sont restés et les parents sont restés, mais il y a un seul enfant qui a été amputé. Donc comment essayer d'assurer la prise en charge de cette famille qui est restée, n'est-ce pas, et alors qu'un membre de la famille est parti. Donc l'approche systémique serait vraiment importante dans ce contexte-là. Et moi, je suis en train de penser que ce qui serait aussi important, c'est de donner accès, n'est-ce pas, au programme, n'est-ce pas, de prise en charge psychologique, au service psychologique. Il faudra bien que au niveau de l'Est, à Goma, à Bukavu, dans ces entités-là, que vraiment qu'on puisse essayer de réfléchir sur comment donner l'accès aux services psychologiques, aux soins psychologiques, aux familles, aux individus, n'est-ce pas, à la communauté. Donc, ça nécessite vraiment une prise en charge globalisante, sans pour autant attendre que les étrangers viennent pour essayer de développer ces services. Mais il existe là-bas sur place des facultés de psychologie, de psychologues cliniciens qui sont formés. Et je pense que donner accès aux personnes, aux familles qui ont été traumatisées, à ce qu'ils puissent bénéficier de ces services-là, c'est un atout. Mais également, essayer de procéder au renforcement des capacités communautaires. Et les communautés locales doivent être renforcées afin de soutenir les victimes. Il faudra bien qu'on mette en place les services à base communautaire là-bas, et renforcer vraiment les capacités des communautés pour essayer d'affronter cela. Pourquoi? Parce que les communautés vont vivre là-bas sur place. La communauté a été perturbée, les sociétés ont été perturbées, mais les gens vivent sur place. Il faudra bien qu'on voit comment on peut essayer de renforcer les groupes, donc constituer les groupes de soutien communautaire afin de voir comment affronter. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui vivent à Goma sont tellement résilients parce que en tout cas, c'est un environnement qui vit les mêmes situations. Et puis, si vous allez là-bas et vous n'avez jamais vécu le traumatisme, vous n'allez pas supporter. Mais eux supportent. Ils sont tellement résilients. Ben, il faudra bien essayer de renforcer les communautés qui sont là-bas. Mais aussi, une autre manière à faire, c'est de développer des programmes de réconciliation et de justice réparatrice. Parce que si le terme même de réconciliation, je ne sais pas s'il convient, mais au moins, il faudra bien qu'on puisse développer des programmes qui visent la réconciliation entre les communautés, entre les ethnies. Et donc, c'est un peu difficile à le dire ou à le faire, c'est un peu dur, mais il faudra bien y arriver. Pourquoi? Parce que ici, l'essentiel est de pouvoir permettre aux personnes qui sont là-bas de pouvoir reprendre, n'est-ce pas, leur vie. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là.
Bien, on va accueillir un auditeur, Justin Koulou de Puyifunguru. Mais Justin, bonjour.
Bonjour, monsieur Judy, et je dis bonjour à notre invité.
Quelle est votre question, Justin?
Oui, en tout cas, j'ai compati d'abord avec nos frères de Goma qui, chaque jour, ils sont dans des fuites dans des psychoses, certains touchés par des dégâts matériels ainsi que des dégâts fatals. Ça me va toutefois au cœur. Et je les félicite aussi puisque ils ne changent jamais des endroits. Parce que ici chez nous à Fungurume, mais on a toujours dit que pourquoi nos frères là ne quittent pas là-bas pour venir nous rejoindre d'abord, rester ici. Et quand on va ériger le mur entre les Rwandais et les Congos qui vont rentrer maintenant chez eux, mais ils sont calmes là malgré les difficultés. Je demande à notre invité, les psyches de nos frères de Koma est touché, que ça soit sur le point de vie développement, puisqu'il ne peut pas investir et pourtant qu'à chaque moment il y a des incursions, il y a des attaques de Goma, donc il risque de ne pas investir ou soit aller ailleurs pour des bons. Alors, sur les traitements psychologiques ou soit les traitements thérapeutiques, notre invité nous propose quoi qu'on doit distribuer aux gens de Goma afin d'adoucir leur mémoire ou soit rafraîchir. Y a-t-il des comprimés ou soit des produits pharmaceutiques que quelqu'un qui est dans les soucis il peut prendre pour adoucir, puisque c'est un coup très dur et certains perdront même la masse, même le poids. Parce qu'à tout moment, ils pensent à des frères qui sont partis, et à tout moment, ils pensent à des biens. Alors, les traitements, il y a les traitements dans des pharmacies. Ensuite, l'accompagnement de ces gens qui ont perdu l'air, qui ont perdu les biens. Est-ce que il y a des organismes internationaux qui sont au courant ou ils ne sont pas encore au courant avec nos frères de Goma? Bien. Et pour terminer, M. Jody,
oui,
je demanderai à nos dirigeants et à nos éléments, je ne sais pas, qui se prennent pour les libérateurs ou soit qui se prennent pour qui que ce soit, de penser à l'être humain, parce que la vie est sacrée. Si c'est moindre, c'est seulement chez les autres, puisqu'il y a un adage qui dit « les malheurs des autres sont faciles à supporter ». Si ce n'est pas chez toi, tu vois que c'est normal. Et si ça arrive chez toi, en tout cas c'est dur. Nous devons nous métamorphoser en un seul corps avec nos frères qui sont là et sentir les mêmes douleurs que ces gens sont en train de sentir. Si on arrivait à les faire, personne ne peut créer de situation qui va endeuiller nos frères et faire des dégâts à des tierces personnes.
Merci beaucoup Justin Nkoulou. Merci Justin depuis Fungurume qui a posé la question de savoir est-ce qu'il est les traitements, y a-t-il des produits à prendre lorsqu'on est on est sous stress psychologique et puis quel type d'accompagnement mettre en place pour suivre ces personnes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont sous stress. Docteur Abraham Mifundu, à vous la parole.
Oui, en fait, le Congo a un programme national de santé mentale qui a déjà des antennes à Goma, dans la province du Nord, comme du sud de Kivu, et qui est en train de développer les activités déjà au niveau du système de santé. Et à côté de cela, il y a certains programmes qui existent déjà, qui prennent en charge les personnes victimes de traumatismes assez spécifiques, comme les violences sexuelles basées sur le genre. Donc, il y a déjà des noyaux, et puis au niveau de la communauté, il y a déjà des personnes qui ont des capacités déjà innées à accompagner, qui ont toujours accompagné d'ailleurs, les personnes qui sont en difficulté avec des problèmes psychologiques. Donc, et puis encore, il y a aussi des psychologues, comme le professeur Mukao l'a dit, qui sont formés dans des facultés de psychologie.
Docteur Abraham, oui, oui, il existe déjà un programme, mais maintenant la dimension du problème est presque, c'est toute une province qui est affectée.
Voilà, c'est cela que je voudrais arriver.
Oui.
Donc, il faudrait des actions aujourd'hui spécifiques qui peuvent utiliser déjà ce qui existe, qu'il faudrait renforcer, comme le professeur Mukawa l'a dit. il faudrait qu'on puisse organiser de véritables actions spécifiques à cela, dans le cadre des renforcements d'abord des capacités des tissus qui peuvent intervenir localement, et aussi dans leurs interventions, eh bien, il y a le médicament, en fait, c'est pour des cas assez spécifiques. Mais la majorité n'a pas besoin de médicaments. Ils ont plus besoin d'un accompagnement psychologique par des entretiens, et des personnes qui sont assez attentionnées, qui sont empathiques. Et aussi, entre eux, comme le professeur Moukao l'a dit, à l'aide de groupes d'entretien, et de groupes, pardon, de soutien. Donc, en fait, les gens qui ont vécu les mêmes problèmes peuvent se soutenir entre eux. Et pour que ça marche très bien, eh bien, il faudrait que ce soit à base communautaire, parce que il y a, comme il a dit, mon prédécesseur l'a bien dit, il y a toutes ces relations qui ont été perdues, qu'il faudrait encore reconstituer, parce que, en fait, le but de toutes ces interventions-là, c'est, en fait, s'entretenir avec ces personnes pour que, finalement, ils aient un sens à la vie, ils aient un sens à leur vie, et aussi qu'ils puissent intégrer, finalement, les expériences qu'ils ont vécues dans le cadre de leur vie. D'ailleurs, c'est cela qui fera à ce que la résilience soit renforcée. Et c'est ce, d'ailleurs, qui fasse que, avec tout ce qui a été fait comme activité antérieure, qui fasse que notre intervenant de tout à l'heure est étonné à ce que les habitants de Goma puissent faire face, peut-être pas assez efficacement, mais au moins qu'on ne trouve pas beaucoup trop de dégâts jusqu'à là maintenant. Mais il faudrait savoir que le traumatisme psychologique, c'est quelque chose qui n'est pas assez apparent, que tout le monde ne sait pas identifier. Et comme il n'y a pas beaucoup de ressources, eh bien, c'est plus le transfert des connaissances et des compétences, des capacités de ceux qui sont des spécialistes, qui doivent renforcer les capacités de ceux qui sont locaux.
Oui.
Donc, bref, c'est question. Voilà.
Oui, professeur Joachim, j'ai entendu une fois quelqu'un dire que c'est presque toute la population congolaise qui est stressée psychologiquement, les embouteillages, tout ça, la guerre. Vous avez des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, voilà, la psychose. Alors j'imagine que la santé mentale devrait être un programme doté de beaucoup de ressources. Et des ressources en termes de personnel, des moyens, des équipements pour une bonne prise en charge de la population, professeur Joachim.
Vous savez bien, lorsqu'on dit on est humain, un humain est humain parce que il devra aussi accepter d'affronter les exigences donc de tous les jours. Et lorsque nous nous réveillons, nous avons des attentes pour la journée, mais on se demande si, lorsqu'on est le soir, est-ce qu'on se rend bien compte, lorsqu'on évalue et tout ce qu'on avait souhaité avoir ou faire, est-ce qu'on a tout fait, est-ce qu'on a tout eu. Et le fait de pouvoir être confronté aux exigences de la vie, quotidienne, et le fait de ne pas recevoir satisfaction à tout ce qu'on a pu attendre, ben, on se place devant un conflit intra-psychique. Et j'ai toujours dit, chacun de nous est victime de conflits intra-psychiques quotidiens. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce conflit intra-psychique entraîne une lutte interne en chacun, du fait que chacun n'arrive pas à pouvoir satisfaire ses besoins, à pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, les désirs qu'il a pu avoir tous les jours. Donc c'est que nous tous, lorsqu'on se réveille, on dit, voilà, je m'en vais au travail, en réalité, je dois arriver à 8 heures. Mais quelles sont les exigences que tu auras? Et tu es contrarié par les embouteillages, tu es contrarié par beaucoup de choses qui feront que tu ne pourras pas arriver à temps. Donc c'est-à-dire, tous les jours, notre santé mentale, notre quiétude en tant qu'individu, est toujours entamée. C'est que la prise en charge
de tout le monde est important et pour essayer, n'est-ce pas, de permettre à ce que nous puissions redémarrer et redémarrer et démarrer chaque jour, et le programme de la santé mentale est tellement un programme costaud et qui nécessite, n'est-ce pas, une prise en charge ou un financement ou un accompagnement parce que c'est de ça aussi que dépend la productivité dont on attend, que ça soit au niveau économique, au niveau social, à tous les niveaux en tout cas, même les étudiants, il faudra bien qu'ils soient bien accompagnés afin qu'ils puissent produire les résultats attendus. Et je voulais encore ajouter sur ce que le prof Abraham a dit, vous savez que dans le passage de tous ceux qui ont été victimes de troubles ou de traumatismes psychologiques à Goma, il y a des femmes qui ont été violentées, qui ont été victimes, n'est-ce pas, de la violence sexuelle. Mmh. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de cela. Imaginez que c'est votre épouse qui a été victime de cela et qu'après, voilà, elle doit revenir à la maison. La gestion de cette femme devient difficile. Devient vraiment difficile la gestion d'une femme qui a été violée. Et ce qui fait que on devra prévoir dans l'accès aux soins aux soins psychologiques le soutien aux femmes et aux survivants des violences sexuelles. Les femmes, les filles en particulier, sont souvent plus affectées par les violences sexuelles durant les conflits. Parce qu'une fille qui grandit attend un jour se retrouver au foyer, mais voilà que la pratique sexuelle, la sexualité qu'elle vient de vivre n'est pas celle qu'elle a attendue. Donc ça provoque en elle, n'est-ce pas, un conflit que nous appelons conflit intrapsychique et qui peut entamer tout son futur. Donc moi je pense que la sensibilisation et la formation des acteurs est tellement importante. Il faudra bien qu'on arrive au niveau des programmes à base communautaire de penser à la formation des soignants, des formations des leaders communautaires, les autorités locales. Les gens doivent être formés sur comment faire pour essayer d'accompagner une personne qui a été victime, n'est-ce pas, de violence. Et on devra bien, c'est comme ça, c'est dans des pareilles circonstances où on doit penser au renforcement des infrastructures sanitaires. On devra bien voir, parce que la prise en charge des victimes de violences sexuelles et même de traumas de manière générale nécessite une équipe pluridisciplinaire. Vous verrez, il y a des médecins neuropsychiatres qui sont là, comme a dit le propre Abraham. Il y a des médecins qui sont là, il y a des psychologues qui sont là, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres intervenants, par exemple des kinésithérapeutes, qui sont là. Pourquoi? Parce que quelqu'un courait, il est tombé, donc le bras a été traumatisé et tout. À la suite de quoi? À la suite du fait qu'il tombait, qu'il criait et tout ça. Donc c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire et donc le renforcement des infrastructures de santé mentale doivent être renforcés et des ressources adéquates allouées pour le traitement des victimes. J'espère que notre gouvernement ne va pas attendre qu'on puisse les stimuler autrement que de prendre déjà maintenant des précautions pour dire que voilà, la population a été traumatisée et c'est la même population sur laquelle on attend qu'elle puisse produire. Avant de produire, il faudra bien que la santé mentale soit à bon état. Donc, il faudra bien développer les structures de soutien, de développement vraiment en santé mentale et de soutien psychologique pour que les gens qui vivent dans ce même milieu, qui vivront toujours là-bas, et puissent, n'est-ce pas, s'adapter ou se réadapter dans leur milieu et travailler normalement.
Bien, docteur Abraham Mifundu, on a suivi que la prise en charge des victimes des violences sexuelles doit être une prise en charge multidisciplinaire. Mais selon vous, ça peut prendre combien de temps Et est-ce que la victime, une femme violée, peut à la fin s'en sortir et reprendre son sourire et puis être guérir, n'est-ce pas, de ce traumatisme dont elle a été victime, docteur Abraham?
En fait, les conséquences du traumatisme n'est pas le même chez toutes les personnes. Donc chacun réagit en fonction de son histoire. Et vous comprendrez que quelqu'un qui a déjà un trouble psychiatrique sera plus affecté que celui qui ne l'a pas eu. Par exemple, celui qui a vécu déjà des situations difficiles au sein de sa famille et celui qui a déjà vécu la guerre, il connaît, peut redouter plus de conséquences que l'autre. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Et c'est pourquoi le renforcement des capacités de ceux qui doivent le prendre en charge est vraiment une nécessité pour en fait bien dépister et bien évaluer et comprendre de quel type de soutien il a besoin, de quel type de suivi il a besoin. Donc, mais sinon, parfois, ça peut prendre certaines conséquences, peut prendre une prise en charge de mois, des années parfois, des années parfois. Et d'ailleurs, si c'est pas pris en charge, la personne peut porter son traumatisme toute la vie. Elle peut porter son traumatisme toute la vie. Mais il y a une cible dont on parle très peu. Ce sont les prestataires de soins, les soignants, ceux qui doivent accompagner.
Oui.
Ceux qui doivent accompagner.
Est-ce qu'on les a suffisamment? Est-ce qu'on les a en grand nombre? Est-ce qu'ils sont formés? Il y a des structures qui les forment?
Il existe, mais ils ne sont pas assez nombreux. Pour ceux de la santé, l'avantage de notre pays est que le pays a un personnel infirmier formé qui est disséminé dans toutes les zones de santé, mais ce qui manque, c'est le renforcement des capacités. Il faudrait qu'on renforce leurs capacités à prendre en charge cette problématique assez spécifique. Donc le nombre n'est pas suffisant, et puis deuxièmement, les capacités aussi ne sont pas suffisantes pour faire face à cette situation. Et puis, quand eux-mêmes prennent en charge, représentez-vous que ceux qui ont reçu de malades, qui ne savaient pas, qui avaient des blessures assez graves et qui ne savaient pas prendre en charge. Eux-mêmes aussi, le personnel soignant est traumatisé. Tous ces religieux, par exemple, qui ont reçu des personnes qui sont venues leur demander peut-être de l'aide, et qui étaient en trop grand nombre. Eux-mêmes aussi ont vécu des situations traumatiques. Donc, même eux aussi doivent être accompagnés de manière spécifique. Et combien même ils seront entrés, quand ils seront à l'action, donc en train d'accompagner les autres, eux aussi nécessitent d'être accompagnés et d'être supervisés par des gens qui ont un œil un peu plus averti. Donc, nous avons il y a un besoin pressant de tout un programme, comme on le dit bien, qui doit être à base communautaire et qui doit utiliser le personnel qui existe déjà, dont les capacités seront renforcées, et voir ceux qui sont dans la communauté qui peuvent aider les autres, que tout ce monde-là, que leur capacité soit renforcée, et que toutes ces équipes-là soient accompagnées. Donc, cela nécessite beaucoup de fonds, et toute une organisation dans le cadre de tout un programme à mettre sur pied, qui nécessite beaucoup de moyens,
oui.
Et qui porterait sur la formation, qui porterait sur tous les intrants, les médicaments par exemple, parce que certains auront besoin de médicaments, et voilà le suivi. Donc c'est tout un programme qu'il faudrait organiser pour que les personnes finalement ceux qui peuvent, parce que plus tôt ils peuvent bénéficier du secours,
oui.
Plus rapidement on peut, voilà, plus rapidement on peut prévenir les conséquences. Par exemple, si les gens, parce que les conséquences continuent, hein, on continue à vivre.
Oui, oui.
Hein. Supposons que vous étiez séparés et que vous rentrez à la maison et que vous vous rendez compte que votre parent n'est pas là ou les os de votre parent dans la maison parce que le corps n'avait pas pu être évacué. Eh bien, donc, il faudrait que... Hein, donc, il faudrait que... Alors, ces gens-là doivent être pris en charge. Et ceux qui on va identifier des troubles comme le stress, l'état de stress aigu, il faut vite les prendre en charge parce que ces troubles-là peuvent évoluer vers un véritable traumatisme qui peut rester pratiquement toute la vie. Alors, les enfants, c'est une cible assez spécifique. Je pense que le POPMUCA aurait beaucoup resté là-dessus. Mmh. Donc, il nécessite une attention assez particulière. Les enfants et même les prestataires de services, ce sont des catégories qui nécessitent aussi une attention assez particulière.
Bien, professeur Joachim Mukawebwel, vous êtes psychanalyste. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on retient par rapport aux soins à apporter au stress aux personnes stressées psychologiquement à cause de la dégradation de la situation sécuritaire?
Oui, merci. Ce qu'on retient ici, la récupération de personnes affectées par des traumatismes psychologiques liés à la guerre. Elle passe donc par une approche holistique. Vous voyez bien, depuis que nous sommes en train de parler avec le prof Abraham, oui. On se rend bien compte qu'il faudra bien une approche holistique, une approche intégrative, une approche qui nécessite vraiment qu'on puisse tenir compte de plusieurs aspects, hein, de plusieurs aspects, et afin de donner ou de redonner encore l'occasion à la population qui vit à Goma de pouvoir redémarrer. Hein. Donc, il faudra bien, ce qu'on retient, c'est que ces événements ont réellement bouleversé le quotidien de la population de Goma. Ça a bouleversé. Que ça
même
soit
de Bukavu
les
aussi,
enfants,
oui,
que
des,
ça soit même, de... oui, même, même de Bukavu, oui. Donc,
de
ça
toutes
a
les
été
deux provinces.
Un événement traumatisant qui a et bouleverser la vie tant individuelle que la vie communautaire. D'où la nécessité qu'on puisse penser à la prise en charge, à l'accompagnement. L'accompagnement tout azimut, hein, l'accompagnement tout azimut, en mettant sur pied les programmes qui doivent permettre à ce que ces gens-là soient pris en charge. Et on doit donner accès, en tout cas, offrir un accès à un soutien psychologique. On doit arriver à former le personnel, la formation de ceux qui n'ont jamais été formés dans ça, mais aussi le renforcement des capacités.
D'accord.
On peut être psychologue, mais on n'a jamais eu la formation sur l'accompagnement psychologique des traumas. On peut être médecin, mais on n'a jamais eu une formation. Donc, à ce moment-là,
oui.
On va renforcer les capacités du personnel existant.
Merci beaucoup. Donc, merci, professeur Joachim. On a pris beaucoup de temps. On est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous disons également merci au docteur Abraham Mifundu, qui est neuropsychiatre. Excellente journée à vous et à la prochaine.
Merci.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au Quotidien. Merci de l'avoir suivi. Debs Vita a été à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation. Jeudi, Daniel Keshama était au micro. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Restez branchés sur la fréquence et la paix. Et à la prochaine.